Comme nous sommes dans cette semaine de Pâques, et aujourd'hui, moins près de 2000 ans en arrière, c'est la crucifixion, et à l'heure qu'il est, moins de 2000 ans en arrière, Jésus est placé au tombeau. Alors on va regarder ces quelques passages pour suivre ce qu'on a vu en fait jusqu'à mardi soir. On va dans l'évangile de Luc. Alors je vais, mardi soir j'ai été trop long, je vais être beaucoup plus court ce soir pour qu'on ait plus de temps pour prier. Mercredi. Luc, pardon, pour voir le mercredi. Luc 21, pour voir ce qui se passe le mercredi de cette semaine, qui est la semaine de Pâques. Juste pour tout remettre dans le contexte, tout simplement. Luc chapitre 21, donc on continue là où on en était, on va aller dans l'évangile de Marc également et de Jean. Voilà, Luc 21 verset 29, c'est ce qui se passe le mercredi. Lorsque, et il leur dit une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, etc., par diverses raisons. Voyez le figuier et tous les arbres. Autrement dit, le Seigneur nous invite. On est à J-1, mercredi, jeudi, soir. C'est la dernière soirée qu'il passe avec les disciples. Donc les paroles que le Seigneur dit dans ces derniers jours, je n'oserais pas dire qu'elles sont plus importantes que dans les mois qui ont précédé, mais elles ont une particularité dans tous les cas, c'est sûr. Voyez le figuier et tous les arbres. Autrement dit, le Seigneur nous invite dans les temps qui sont les temps de la fin, comme pour lui les temps qui précèdent la crucifixion, à porter une attention particulière sur la parole, pour comprendre ce qui se passe dans le monde et comprendre ce qui se passe dans nos vies et porter le regard qui convient bien. Parce que si nous ne lisons pas la parole, on ne va pas comprendre ce qu'on voit. On ne va pas comprendre ce qui se passe, ce qu'on voit dans nos vies, ce qu'on voit dans la vie des autres. On ne va pas comprendre pourquoi ils font comme ça, pourquoi ils parlent comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça. Mais quand on a bien regardé la parole, on comprend pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu font comme ça, pourquoi ils parlent comme ça. Ce n'est pas pour les juger ni les cataloguer, mais on comprend les raisons qu'on ne comprenait pas avant, qui nous a menés à juger d'une manière ou d'une autre, à trancher ou pas, et avoir un comportement différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le résultat de la lecture de la parole où l'on voit les choses, nous amène à porter un autre regard sur ce qui se passe autour de nous. Et comme le Seigneur, nous portons un regard de miséricorde et de compassion, un regard qui nous amène ensuite à prier. C'est bien également de porter un regard particulier sur le peuple de Dieu, sur son histoire, le peuple d'Israël. Voilà. Les chrétiens ignorent trop l'histoire du peuple d'Israël, sous prétexte que ben maintenant on est dans la Nouvelle Alliance. C'est vrai que nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais ça veut dire qu'il y en avait une avant. Et pour comprendre, bien comprendre la Nouvelle, il faut quand même connaître l'Ancienne. Quand on lit l'Épître aux Hébreux, il y a des choses qu'on ne comprend pas, sauf si on médite l'Ancien Testament et l'on comprend alors les éléments de l'Ancienne Alliance qui nous amènent à la Nouvelle, et particulièrement concernant le peuple de Dieu. Dieu porte une attention particulière sur Israël. Comment ses enfants pourraient s'en exonérer? On ne peut pas. On doit avoir un regard particulier sur Israël, sans devenir des sionistes, hein, des pro-Israël contre tout et malgré tout, mais quand même, Israël, c'est quelque chose de particulier dans le cœur de Dieu, c'est même quelque chose de particulier dans le monde, aussi petit que ce pays puisse être. Voyez le figuier, portons un regard sur les choses. Et c'est ce que le Seigneur dit le mercredi. Et il dit au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Après avoir porté ce regard sur les choses, nous devons nous mettre en position de veille. je veille sur ce qui se passe. Je surveille les choses. Je suis attentif aux événements. Non pas pour pronostiquer la fin du monde. Entre parenthèses, il y en a qui l'ont pronostiqué pour le mois de septembre. Alors préparez-vous pour l'enlèvement de l'église qui devrait avoir lieu au mois de septembre. Je ne me moque pas en disant ça. Mais je me dis, certains vont trop loin. Alors, ça fait sourire. Et mais attention, ne pas trop sourire, parce que ça va arriver quand même. Et si ça arrive en octobre, ça on ne le sait pas, ni le jour ni l'heure, mais nous devons veiller. Veiller sur nous, veiller sur nos familles, veiller sur ceux qui nous entourent, porter un regard sur eux. Et ça, c'est important. On parle du Seigneur à quelqu'un, il faut veiller dessus. Cette semaine, j'ai pris contact avec quelqu'un qu'on a vu ici, et qui finalement me dit, ben je vais aller me faire baptiser à l'église catholique. Écoutez, ça confirme ce que je vous ai dit, il y a des choses que vous n'avez pas comprises encore. Voilà. Mais c'est à nous de veiller, et jusqu'à un certain point, parce qu'après on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas imposer les choses, mais nous devons veiller sur tous ceux qui sont autour de nous, sur nos enfants, et ça c'est quelque chose d'important, sur notre famille, pour prier. Si on ne veille pas, on ne peut pas prier. Parfois on rentre trop vite dans la prière, on n'a pas pris le temps de regarder les choses. Dans le sens de veiller dessus. Et quand je veille sur quelqu'un, je suis pertinent dans ma prière. Si je ne porte pas de regard attentif sur la situation ou sur la personne, ma prière manquera de précision et donc d'efficacité. Voilà. Et c'est ce que le Seigneur va dire. Veillez et priez. Et je crois que veiller doit être avant de prier. Tout simplement. On arrive au chapitre 22. Verset 3. Alors là, on va faire une petite parenthèse, mais sans trop, parce que je ne voudrais pas rentrer dans une étude biblique sur la trahison, sur le péché qui n'est pas pardonnable, etc. Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était au nombre des 12. Or, Satan entra dans Judas. C'est écrit au verset 3. Vous allez au verset 22. Jésus dit une parole qui est terrible. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et il nous faut veiller pour savoir jusqu'où il nous faut prier pour quelqu'un et à partir de quand ça ne sert plus à rien. Parce que pour certaines personnes, ça ne sert à rien de continuer de prier. Pour Judas, ça ne sert à rien de continuer de prier. Il est allé trop loin. Et pour d'autres qui ne sont pas allés trop loin, en fait, c'est à eux maintenant de faire la démarche. Donc, ce n'est pas parce qu'on va insister auprès du Seigneur que la personne va bouger. Parce que maintenant, nous, on a fait ce qu'il faut, le Seigneur a fait ce qu'il faut, maintenant, c'est à la personne de bouger. C'est dans ce sens que je dis que si on ne veille pas, parfois, on risque d'avoir une attitude religieuse, on prie, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut que la personne prenne une décision, tout simplement. En l'occurrence, il est allé trop loin. Satan entra dans Judas. Malheur à l'homme par qui il est livré. À partir de là, tous ceux qui disent, et il ne faut plus le dire, nous sommes des chrétiens éclairés. Tous ceux qui disent, mais le Seigneur est bon, est-ce que Judas aurait pu revenir et se repentir? Moi, je dis non. Parce que ce que le Seigneur dit, c'est un arrêt. Ça aurait pu être une décision de justice, un arrêt du tribunal. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Quand c'est Jésus qui dit ça, à quelques heures d'être crucifié et livré par Judas, ce n'est pas la peine de verser dans une forme de sentimentalisme évangélique en disant « Ah, mais quand même, s'il revient, le Seigneur... » Tout le monde peut revenir s'il n'est pas allé trop loin. Mais certains sont allés trop loin. Et c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, pour certains, il est impossible de revenir, parce qu'ils sont allés trop loin. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'important. Mieux vaudrait, pour cet homme qu'il ne soit pas né. Dans l'Évangile de Matthieu, c'est écrit le concernant. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Il est appelé le fils de perdition. Il est dit dans le livre des Actes, il était compté parmi nous, il avait part au ministère. Mais il est allé trop loin, maintenant on va le remplacer. Alors on revient dans le livre des psaumes, pour ceux qui veulent noter les références, c'était Jean 13, 2 et 18, 27, enfin les versets, Jean 13, 2, 18, 27. Satan entra dans Judas, c'était Luc 22, 1 à 6 et 19 à 23, malheur à l'homme par qui il est livré. C'était Matthieu 26, 24, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. C'était Jean 17, 12, le fils de perdition. Et puis c'est Acte 1, 16 à 17, il était compté parmi nous. Mais ce qui le concerne était connu de longue date. Psaume 41, 10. Celui qui avait ma confiance lève le talon contre moi. Et c'est ce que Jésus a dit. Ce que l'Esprit a dit concernant ce que Judas ferait à Jésus. C'est Psaume 69, 9 à 10 et 26, 29. Qu'il soit effacé du livre de vie ceux qui commettent de telles choses. Et Psaume 109, 7 et 8. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Alors, on va lire au psaume 109. Psaume 109. Vous me dites si vous voulez que je redonne les références. Psaume 109, verset 7. On lit à partir du verset 2, pardon. Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon bonheur. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Et c'est ce que les apôtres vont reprendre, qu'un autre prenne sa charge. Donc, prophétiquement, ça concernait Judas. Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable. Et Hébreux 6, 4, 8, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés littéralement, volontairement abandonnés, dans le sens de rejeter, comme Judas a pu le faire, soit encore renouvelé, amené à la repentance. Donc, ce sont des cas qui ne sont pas nombreux, mais ils existent. Mais si nous ne veillons pas, dans le sens de connaître les Écritures, pour savoir analyser une situation, eh bien, nous risquons de nous retrouver en décalé, c'est-à-dire continuer de prier pour une personne qui est allée trop loin. Mais comme on ne veille pas, comme on n'est pas à l'aise, on ne sait jamais jusqu'où il faut prier pour quelqu'un. Alors, du coup, on prie. Voilà, comme ça au moins, si ce n'est pas utile, ben on ne pourra pas nous faire le reproche de l'inverse, et si c'est utile, mais en fait, quand on en est là, ça veut dire qu'on ne sait pas l'efficacité de notre prière, on ne sait pas ce que Dieu demande et attend de nous, on prie. On est dans une position de religiosité, mais on n'est pas dans une position de serviteur. Et on n'est pas encore moins dans une position d'ami, parce que je vous ai appelé ami. Il nous fait connaître sa pensée, il nous fait connaître sa volonté. Et pour Judas, je suis sûr que les disciples, qui pourtant n'avaient pas tout compris, ont compris que ce n'était pas la peine d'insister. Voilà. Et pour nous, c'est un petit peu pareil. Il y a des situations, il y a des personnes. Il ne faut pas insister parce qu'eux sont allés trop loin. Voilà. Satan entra dans Judas, qu'il soit effacé du livre de vie. Voilà. Et Jésus dit ça le mercredi. Il a le droit de le dire. C'est normal qu'il le dise à cause du prix qu'il va payer. Et quand on a tout fait pour quelqu'un, on a le droit de dire, bon, maintenant, ça suffit. Parce que personne ne peut faire aucun reproche au Seigneur dans le sens, mais tu n'as pas tout fait pour moi. Non, j'ai tout fait pour toi. Mais tu es allé trop loin. Et maintenant, ça suffit. Et nous, on est capable de le dire à quelqu'un, bon, maintenant, ça suffit. Tu vas trop loin. Tu es allé trop loin. Maintenant, la prière, c'est pareil. À certains moments, il faut dire, bon, maintenant, ça suffit. Tu es allé trop loin. Tu sais ce que tu dois faire. Tu sais que tu dois revenir au Seigneur et donner ton cœur au Seigneur. Moi, maintenant, je ne prie plus pour toi. Et peut-être que ça fait du bien à quelqu'un de l'entendre de temps en temps. Ça va le secouer à l'intérieur. Maintenant arrive le jeudi. Et le jeudi, on est toujours au chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Le jour arriva. Et là aussi, on le sait, il y a des étapes dans notre vie, c'est le moment. C'est le moment de payer le prix, c'est le moment de faire ce qu'il faut. Et il faut aller jusqu'au bout. Et Jésus va dire au verset 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. » Et nous devons nous rappeler particulièrement pour dimanche, mais pas que celui-là de dimanche. Celui-là, c'est le dimanche de Pâques. Mais il nous faudra nous rappeler pour tous les dimanches que quand nous prenons le pain et le vin, il ne faut pas que nous le prenions pour nous. Il ne faut pas que nous le prenions en nous regardant nous-mêmes. Il faut que nous le prenions en nous rappelant cette parole qu'il a dite. J'ai désiré manger cette Pâque avec vous. C'est une attente du Seigneur autour de la Sainte-Cène. Et il va dire au verset 32 à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous cribler, mais j'ai prié pour toi. » Et il ne faut pas se faire d'illusions, le jour arrive où on va passer au crible. Tous les chrétiens dans la vie chrétienne passeront à un moment donné, voire plusieurs fois, dans la vie chrétienne, au crible, particulièrement quand on approche de certains événements importants, de certaines décisions importantes, de certains prix à payer, on passe au crible. Et déjà parce que c'est une situation difficile, et en plus parce que l'ennemi de nos âmes, il ne va pas laisser facilement quelqu'un prendre une dimension supérieure dans la foi, dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle, parce qu'il sait que c'est un combattant plus rude, plus efficace qu'avant. Jésus qui donne sa vie à la croix, c'est quelque chose qui va devenir d'une puissance extraordinaire. L'homme, la femme qui donne son cœur au Seigneur, il passe un stade dans sa vie. Et que nous savons qu'après, il y en a d'autres, il y a le baptême de l'Esprit et il y a le service de Dieu. Et donc, ces passages de stade sont crescendo. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, j'ai prié pour toi. Et c'est bien de se rappeler qu'il a ses regards posés sur nous, dans le sens attentionné, pour prier pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans sa prière? Ça, je ne sais pas. Pour vous, et pour moi non plus. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous, vous et moi, nous prions pour quelqu'un, et nous pouvons nous dire, eh bien là-haut, il intercède aussi pour nous. C'est touchant. Que le Seigneur intercède auprès du Père pour vous, pour moi. Et dans Jean 17, et là je ne vais pas être long, c'est la longue prière de la soirée. La longue prière que le Seigneur va adresser au Père pour les disciples. Et c'est la seule fois où les disciples vont entendre. Sinon, ils se retiraient pour prier. Mais là, les disciples vont entendre. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il y a des prières que personne ne doit entendre. Mais s'il y en a d'autres, il faut élever sa voix. Il faut prier, ça va marquer tout le monde. Parce que quand quelqu'un s'adresse à Dieu comme Jésus s'est adressé à Dieu pour les autres, c'est touchant. Quand quelqu'un prie pour vous à haute voix, c'est touchant. Et ça fait du bien. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Et ce soir-là, il ne s'est pas retiré, il a prié devant eux. Et ils l'ont entendu. Essayez de vous mettre à la place des disciples, ça a dû faire quelque chose de l'entendre prier et de l'entendre, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est au verset 20. Et puis, la nuit se continue. Jésus va dire au verset, toujours on revient dans Luc, hein, Luc 22, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Luc 22, 42. Donc c'était ce matin avant le lever du soleil, avec quelques années d'écart. Il s'est exprimé ainsi, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Il est comme nous devant la difficulté, parce qu'il s'est rendu semblable à nous. Donc il nous comprend. Et on comprend l'apôtre Paul qui dira aux Colossiens, chapitre 1, verset 24, « Ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. » Et ça, c'est quelque chose de particulier qu'il nous faut intégrer dans notre vie. Accepter de porter ce qui manque aux souffrances de Christ. Et on n'aime pas souffrir. En général, et en tant que chrétien, pour des chrétiens ou des non-chrétiens, c'est plus compliqué. Et pourtant, c'est indispensable. Si on veut que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu ou progressent avec Dieu, il va falloir payer le prix. Parce que rien ne se fait sans payer la note. À cause du péché, désormais, tout coûte. Tout coûte. Depuis qu'Adam et Ève ont chuté, tout se paye. Et ça se paye cher. Et le salut de notre âme aussi. Et notre participation pour que quelqu'un vienne au Seigneur a sa facture à payer aussi. Alors soit on s'y prépare et on demande au Seigneur de nous aider, soit on s'y soustrait. Mais si on s'y soustrait, on risque à un moment donné d'être repris par le Seigneur qui pourrait nous dire « Mais moi je compte sur toi. Oui, mais c'est trop dur, etc. etc. » Oui, mais ça ne peut pas se faire autrement. Ça ne peut pas se faire autrement. On est avant le lever du jour, au chapitre 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé !» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Ça ne fait pas du plaisir à entendre. Ça ne fait pas du bien à entendre. Et c'est pourtant ce qui lui est arrivé. Alors quand ça nous arrivera, eh bien, il faut qu'on se prépare à dire, bon, ben, ok, je suis prévenu. Tu m'as prévenu. Que ça pourrait aussi se passer comme ça. Et dans la mesure où je suis prévenu, il n'y a plus l'effet de surprise. On se dit, tiens, ça y est, c'est maintenant. Voilà. Verset 66, quand le jour fut venu, le collège des anciens, du peuple, des principaux sacrificateurs, les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans les Sanhédrin. Si tu es le Christ, dis-le-nous. Voilà. Maintenant, le jour est venu. Et il est en accusation directe, franche, au regard de tous. Eh bien, laissons faire les choses. En accusation franche, directe, au regard de tous. Maintenant, on va terminer dans l'évangile de Marc, au chapitre 15. Le soleil s'est levé. On est peut-être vers 6h, 7h du matin, à l'heure où on prenait peut-être le petit déjeuner, aujourd'hui. Il est dit ceci dans Marc 15, 25. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Ça veut dire que tout ce que nous avons lu tout à l'heure jusqu'à 9h du matin, tout s'est passé là, dans ce créneau. On s'est moqué de lui, on l'a frappé, on l'a amené devant l'un, devant l'autre. Ensuite, on lui fait faire le chemin qu'on appelle le chemin de croix, etc. jusqu'au lieu de la crucifixion. Et à 9h du matin, la crucifixion a lieu avec deux malfaiteurs qui sont là pour être mis à mort. Verset 33, la sixième heure étant venue, 6 heures plus 6, ça fait 12 heures au soleil, midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire « Voici, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et lui en fixer un roseau, lui donna à boire en disant « Laissez, voyons, si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et là, 3 heures d'après-midi en suivant, le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément « Cet homme était fils de Dieu ». Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier, lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala, Marie mère de Joseph, regardez où on le mettait. Et on verra dimanche la suite lorsque le sabbat fut passé. Voilà. Et nous sommes dans ces moments où le Seigneur est mis au tombeau. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que dès cet instant, des choses sont en train de se passer dans le séjour des morts, dans la présence de Dieu. Physiquement, il y a eu quelques bouleversements, mais comparativement au reste, c'est mineur. C'est rien que la terre tremble, que le voile du temple se déchire et que le sépulcre s'ouvre. C'est rien comparé à ce qui se passe. Maintenant, il est dans le séjour des morts. Il est en train d'annoncer la victoire. Il est en train d'écrire avec son sang la victoire sur toute chose. Il est en train d'ouvrir la porte du ciel. Il est en train de fermer la porte de l'enfer. Le diable est en train d'être jeté hors de la présence de Dieu. C'est fini. Et nous sommes là les bénéficiaires de ce qui s'est passé dans ces heures. Et je crois qu'on peut, dans ce temps de prière, simplement dire ben merci d'avoir fait ce que tu as fait. Rendez compte qu'on aurait pu être contemporain, on n'aurait pas plus compris. À la limite, je crois qu'aujourd'hui, on comprend plus que ce qu'eux ont pu comprendre à cause de la révélation. Donc, bénissons le Seigneur d'une certaine manière de vivre aujourd'hui et d'être au bénéfice aujourd'hui de ce que notre Seigneur a fait. Je ne dis pas ça pour qu'on se... on verse dans une forme de tristesse, en s'empêchant même ce soir de se réjouir de quoi que ce soit, en se disant, mais mon Seigneur, il a été dans le tombeau à la même heure. Le but n'est pas d'aller jusque-là, ce serait une forme de religiosité peut-être un peu trop exagérée. Mais c'est quand même bien de se rappeler ce qui s'est passé, parce que ça s'est passé. Et dire, Seigneur, merci pour ce latoir avec la feria. On va déjà prier pour le dimanche suivant avec la chorale de Nîmes. Voilà, toi, Seigneur, fasse son œuvre dans cette ville et cette région. Et soyons vraiment des acteurs, participants. Gloire à toi. On te donner.